Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
On m'accède. Nous voilà dans une boucherie de Corté. La ville universitaire de Lille. Sous une grappe de figatelle s'affaire quelqu'un qui ressemble parfaitement à l'image que l'on peut se faire d'un boucher. Débonnaire et accueillant, on le dirait porté par cette sagesse populaire, pleine de bon sens et de pragmatisme. Mais Éric Faucon est bien plus que ça. Il débite en tranches fines les différents courants de pensée du développement économique de son île. Un artisan boucher élevé à l'université corse. De ces personnes que l'on rencontre sur la route, par estrade. Une road story qui s'écoute dans les méandres des circuits courts.
Créer son modèle. La réussite, ça serait celle-là. Ça serait de dire, voilà, nous, dans notre pays, puisqu'on revendique un pays, hein, c'est comme ça que ça se passe. Voici les relations sociales, voici un développement économique où on essaie justement de garder notre capital pour les générations futures. Ça serait ça, la réussite, ça serait ça. Je suis gérant de l'entreprise dans laquelle on se trouve, qui s'appelle la Société Charcutière de San Lorenzo, et qui fait à la fois des activités de boucherie et de charcuterie corse. La personne qui a créé cette entreprise, c'était une affaire familiale qui l'a transformée, qui l'a fait croître. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, elle m'a dit « Bon, alors maintenant, tu as eu le bac, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais aller à l'université à Corté. » »« Oh là là, mais non, mais l'université à Corté, il faut que tu ailles dans une université à Paris, pas à Corté, que tu vas apprendre quelque chose. » Je suis venu à Corté, et puis donc après 2 ans, un jour, il vient et me dit « Alors, est-ce que tu as bien appris ?» J'ai dit « Écoute, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, je sais pas. » Puis c'est vrai, je savais pas, c'était pas une feinte. Il me dit « Écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la comptabilité. » Et de là, on a bâti une collaboration qui a duré une vingtaine d'années, quoi. C'était sa famille qui suivait derrière. Et à un moment donné, la question s'est posée de comment ça allait continuer. Et ils sont venus et m'ont dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors on ferme. Et moi, ça m'ennuyait terriblement que cette entreprise qui était dans le village, qui était là, ferme. Alors j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien venir m'en occuper. Et de là, il est parti l'affaire. Alors l'université de Corse, bon, je ne la prendrai à personne, c'était une vieille revendication du mouvement nationaliste. Et donc moi, quand je suis arrivé, j'avais 17 ans et demi, elle venait de s'ouvrir. et se posait la question pour tous les néo-bacheliers, bon alors est-ce qu'on va à l'université de Corse ou est-ce qu'on va ailleurs? J'étais venu m'inscrire et en fait on ne savait pas encore si on allait ouvrir les IUT cette année-là ou plus tard ou jamais d'ailleurs, puisque vraiment la question de la survie elle était posée. Hein. Dès l'ouverture, tout le monde disait c'est une expérience qui ne marchera pas. Ben, l'université elle rouvre en 1981 et donc il y avait une forte revendication, on souhaitait que l'université se développe, il y avait une forte incrédulité autant locale, corse, de gens qui disaient « qu'est-ce que ça va faire, ça sera rien du tout, ça sera une université de seconde zone, de toute façon elle ne survivra pas, les gens finiront par retourner sur le continent, etc. » Puis il y avait une incrédulité aussi extérieure de gens qui disaient oh, « une université à si petite taille, perdue dans les montagnes corses, qu'est-ce que... ça ne durera pas. »
En 1975, par des coups de feu en l'air et des prises de parole, était affirmée la naissance de l'université de Corte.
Et donc il y avait une forte mobilisation pour obtenir au départ l'ouverture de nouvelles formations, l'ouverture de nouvelles filières, l'augmentation des locaux, la promotion de la langue corse, enfin toutes ces choses. Et bon, derrière, avec une forte revendication politique derrière, hein, ça il ne faut pas s'en cacher.
Avec la naissance de l'Université de Corse, le Reacquisto termine sa première période, celle des utopies.
Je pense que l'université, ça a été pour une génération, la mienne, ça a été à un moment donné un passage, puis après il y a des gens qui ont dit, bon ben maintenant, ce qu'on a fait là, il faut qu'on le traduise en termes concrets, en termes de développement sur le terrain.
Désormais, la réappropriation des expressions artistiques et culturelles, comme des savoir-faire, ce Reacquisto, va prendre quelques tournures plus concrètes. Avec l'exemple du miel.
Et ça a été l'AOC Miel de Corse, première AOC Miel de France d'ailleurs. Ils ont vu tous ces différents miels posés sur la table et là ils ont dit non mais attendez là c'est tout simplement pas possible, vous devez faire une AOP par miel, puisqu'il y avait des miels quasiment blancs, il y en a là derrière, on peut les voir, et puis il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont liquides, il y en a qui sont solides, donc tout ça, non, nous il nous faut un seul produit, et puis il nous faut votre parcellaire, parce qu'ils étaient dans la philosophie viticole, mais le parcellaire, les abeilles elles volent, il n'y a pas de parcellaire, le parcellaire c'est la Corse. Linao se disait, mais non, mais une appellation c'est sur un produit, un seul produit, là vous avez plusieurs miels, c'est impossible, et de dire non mais c'est bien un miel de terroir, et il y a différentes catégories de miel en fonction des moments de l'année et des végétations. Et donc on a longuement réfléchi, on a examiné les hypothèses les plus improbables, comme mélanger les miels ou les plus diverses. Puis à un moment donné, on a dit, mais en définitive, nous, notre terroir, c'est de faire un miel au printemps, un miel en été, un miel... Et on est sorti avec la gamme. Et quand ils sont revenus, on a dit, voilà, tous nos miels sont classés, ils sont dans une gamme. Donc, c'est là où c'est miel de Corse avec miel de maquis de printemps, miel de la châtaigneraie, miel, enfin, etc. Toute la gamme. On a fait encore quelques allers-retours. Bon, ça a quand même duré 7 ans. Hein. On a fait quelques allers-retours et c'est passé.
Le miel corse ayant désormais son appellation, un autre symbole du terroir insulaire allait essayer d'en faire autant, le cochon. Une vieille envie jamais réalisée. Déjà, à la fin des années 60, le syndicat interprofessionnel des produits corses de qualité souhaitait mettre en place un label de qualité pour la charcuterie corse. Sans succès.
C'est la première fois qu'on a affirmé que c'était le porc charcutier traditionnel, porc coureur de montagne, qui était l'élément donnant sa qualité, donnant son originalité à la charcuterie.
Qu'est-ce qu'on veut faire en charcuterie corse? Aujourd'hui, on a une AOP, on a une IGP, les gens de l'AOP dénoncent l'IGP, et on a des gens qui sont hors AOP et hors IGP. Et on n'arrive pas à harmoniser tout ça pour faire quelque chose. Il nous faut ce projet, il le faut maintenant. Je fais en indépendant tous les types de charcuterie. C'est-à-dire que par exemple, là, derrière nous, j'ai des saucisses qui ont été charcutées avec des cochons qui ont été élevés à Corté, donc qui pourraient prétendre à l'appellation Corse, bien qu'ils ne soient pas en Australie, bien que. Et puis, je fais aussi venir des viandes sélectionnées du continent. Et on fait, avec ça, de la charcuterie qu'on commercialise à la fois ici en Corse et aussi sur le continent. On joue le jeu vis-à-vis du consommateur, parce qu'on s'y sent tenu. C'est-à-dire que quand c'est des saucisses qui sont faites avec les porcs de Corté, je dis ça, c'est des saucisses que j'ai fait avec les porcs d'un tel qui est sur Corté. Et puis, quand c'est des lonzi qui sont faits avec des élevages sélectionnés du Cantal, je dis voilà, la viande, elle vient du Cantal, c'est des lonzi qui sont faits comme ça.
Le cochon corse se fait rare. J'ai passé mon enfance à leur courir après au village. Et il y en a de moins en moins. Et pour Tchédou se font rares. Mais surtout, et pour Kagyu, ce sont surtout les éleveurs qui sont en voie de disparition.
Les villages sont en voie de régression constante. Et c'est ça qui me fait nourrir les plus grandes inquiétudes pour la Corse de demain. Parce que c'est là que se trouve l'histoire de Corse et c'est là que se trouvent les racines. Une fois ça disparu, je conçois difficilement comment on pourrait faire émerger quelque chose de nouveau face à la pression. C'est le modèle mondialiste. Donc la question, elle a cours aujourd'hui. Est-ce que les gens ne veulent plus vivre dans les villages ou est-ce qu'ils ne peuvent plus y vivre? Moi qui ai une entreprise qui fait travailler 8 personnes à Saint-Laurent, je peux vous dire que c'est pas parce que les gens ne veulent plus, c'est parce qu'ils ne peuvent plus. Ben, pour aller à Saint-Laurent en ce moment, compte tenu du fait que la route est coupée, de Corté, qui n'est pas très loin, c'est à 35 km, on met 45 minutes. Et de Bastia, on met, je pense, 1h15. Le problème, c'est de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans un village. Aujourd'hui, une personne qui veut s'installer dans un village, elle ne va pas trouver à se loger. Donc ça lui fait déjà une première grosse barrière. Il y a des maisons qui sont fermées, qui sont bloquées et qui sont souvent pas dans un état des conditions d'habitation moderne, notamment en hiver. Et aujourd'hui, les dispositifs présents en termes d'incitation fiscale, ils orientent vers des acquisitions de logements sur le littoral à travers des avantages fiscaux, tous avantages que vous ne pouvez pas obtenir dans un village. Donc, bon, pas de docteur, pas ou peu d'école, pas d'activité pour les enfants. Même dans le centre, même ici sur Corté et les alentours, il y a beaucoup de choses qui manquent et qui sont à faire. Et puis après, l'activité. L'activité, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va promouvoir des activités dans les villages ou est-ce qu'on va se fier à un modèle économique autre et promouvoir d'autres types d'activités? Pour l'instant, le modèle économique qui verrait un encouragement des activités dans l'intérieur de l'île, il reste à construire.
À l'apogée des Trente Glorieuses, l'État français commandait un rapport sur la Corse à l'Hudson Institute. Conclusion de l'organisme d'études américain, l'État aurait à choisir entre deux options complètement opposées. La première, accélérer l'érosion de l'identité corse, encourager une immigration massive et obtenir un niveau élevé de peuplement en majorité non corse. La deuxième, conserver et restaurer l'identité culturelle et les traditions corses en développant le potentiel de l'île dans le contexte corse.
Il y a aussi du nouveau en Corse. Du nouveau, c'est-à-dire des projets, des promesses et des expériences. Sur cette terre trop avare pour nourrir ses enfants, on cherche aujourd'hui de nouveaux champs. Dans la plaine orientale, des Français venus d'Algérie et de Tunisie se sont lancés à la conquête agricole du pays. Des fermes modèles se sont élevées et l'on peut imaginer qu'avec ces récupérations, on pourra compter en Corse 80 000 hectares cultivés, c'est-à-dire le dixième du sol de l'île. C'est, pour ainsi dire, une Corse nouvelle qui est en train de naître.
Les administrations d'État ont plongé vers la première option. Les artisans du Réacquist se sont accrochés à la défense du terroir corse.
Ça paraît tellement énorme qu'il m'en coûte de le rappeler. On est une île. Il y a un petit marché, c'est un marché fermé. En plus, il est cloisonné par le relief. Donc, tout ce qui est phénomène économique, tout ce qui est développement économique, ça prend ici forcément un tour particulier. Donc, à un moment donné, quelquefois, on demande des choses qui, tout simplement, ne sont pas en concordance avec la réalité locale. Bon, ces choses-là, il faudrait pouvoir les adapter. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans plusieurs statuts particuliers de la Corse qui disent vous avez le droit de demander des adaptations quand il est démontré, quand vous êtes capable de démontrer leur bien fondé. Le problème c'est qu'on en a demandé une foultitude et on n'a jamais eu de réponse. Donc peut-être aussi c'est pour ça que maintenant il faut passer à autre chose. Donc ça c'est la relation avec l'extérieur, avec aussi des gens qui arrivent souvent et qui veulent penser le développement à notre place alors qu'ils n'ont pas les bases du terrain. Un peu comme si moi j'allais dans les Ardennes et je lui expliquais qu'il faut faire ça, ça, ça et ça, mais en vertu de quoi? Voilà, donc ça c'est un premier problème. Et après, le deuxième problème, il est quand même aussi local. À un moment donné, il faut bien dire que si on affirmait une réelle politique dans un certain nombre de domaines et si on était capable de l'afficher clairement et si on était capable d'investir des moyens, sûrement beaucoup de solutions pourraient être trouvées localement. Et bien souvent, quand on essaie d'avancer, on se heurte à des barrières qui ne sont pas des barrières extérieures. On a des administrations qui, je vais dire, sont pesantes et qui, faute justement d'avoir des directions bien claires et des caps politiques affichés bien clairs, tournent sur elles-mêmes, tournent dans le vide et ne travaille pas forcément avec les pas de temps du développement. C'est, à mon avis, un trait de l'administration, mais dans une région qui est peu développée et qui a beaucoup besoin d'initiatives, de création de richesses, de création d'emplois, c'est encore plus pesant. Et on aurait vraiment besoin maintenant d'aller vite.
Aujourd'hui, les deux options s'affrontent encore. Ou ont fusionné. Des petits porte-clés en forme de nationalistes cagoulés sont vendus à des touristes dans des campings de la côte, dans une triste confusion des deux options.
Sans doute, cette agriculture ne sera jamais de taille à faire vivre la Corse. Mais il lui reste le merveilleux décor qu'on peut exploiter en y faisant venir les touristes. Dans ce domaine, il faut créer l'infrastructure, hôtels et routes. Et de ce côté aussi, des progrès sont en cours. La rénovation des hôtels est sérieusement encouragée.
N'être qu'une destination touristique réputée, la Corse n'a-t-elle que cette voie comme destin ?
Aujourd'hui, l'orientation claire, elle est vers le tourisme de masse. Même si ce n'est pas encore la réalité, on voit bien qu'il y a beaucoup de spéculation immobilière, on voit bien qu'il y a beaucoup de constructions de logements qui vont servir à faire de la location temporaire et saisonnière. On voit qu'aujourd'hui, l'orientation, c'est ça. Est-ce que ça, c'est une solution ? La réponse, c'est non, puisqu'on sait très bien comment ça finira. Ça finira comme ça a fini ailleurs, par des crises de fréquentation, par des problématiques touristiques, par des nécessités de réhabilitation de l'espace qu'aujourd'hui on est en train de détruire. Donc il nous faut nécessairement promouvoir autre chose. Et à mon avis, ce qu'il nous faut promouvoir, c'est un tourisme de bien-être et de qualité de la vie. Ce n'est pas forcément un tourisme de luxe, comme disent les gens. C'est un tourisme, on dit aux gens, voilà, venez chez nous, parce que chez nous, vous allez faire une expérience. Vous allez vivre des vacances détendues, vous allez découvrir un tas de choses et vous allez surtout voir des choses originales que vous ne connaissez pas.
Il s'agit de refaire la Corse à l'échelle moderne. Or, l'avenir de la Corse, c'est peut-être simplement de pouvoir montrer ses calanques et ses vieilles villes. Et là-dessus, son ciel des dimanches.
Et tout le monde vous dit, oui, mais bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, derrière, il n'y a pas les décisions. Donc, pas de décision, égale continuité du modèle, égale mondialisation.
Après la période pragmatique du Reacquiste, a succédé celle du désenchantement nationaliste. Les années de plomb que Preti Mondolone a abordées lors de notre rencontre. Désormais, la Corse se concentre sur ses valeurs, toutes ses valeurs, et tout particulièrement celles qui intéressent les spéculateurs.
Moi, j'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec un conseiller territorial. Il dit, mais vous êtes contre la spéculation immobilière ? Je dis, je vois partout surgir des bâtiments, donc je me demande. Mais bien sûr qu'on est contre. Je dis, alors c'est très simple, vous avez une majorité absolue à l'Assemblée de Corse. Eh bien, prenez une délibération disant que les communes où sont délivrés des permis spéculatifs,
la collectivité ne pourra pas les suivre en termes d'équipement. Parce que si demain je suis maire dans ma commune, je délivre un permis pour 600 logements spéculatifs. Donc on me fait 600 T2 en loi Pinel, machin. Après-demain, je suis à Ajaccio, à la collectivité de Corse, et je dis « Ah, ma station d'épuration est dépassée. Ah, mon réseau de voirie est dépassé. Ah, mon réseau électrique. Il faut m'aider. » J'ai dit « Et là, vous balancez la sauce. » J'ai dit « Donc de l'argent public qui va quoi faire ? Alimenter la spéculation immobilière. Si je suis libéral, si mon orientation philosophique, c'est le libéralisme, il n'y a aucune raison de ne pas alimenter avec des fonds publics le modèle économique. Je veux dire, le libéralisme, aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est ça, c'est l'argent public finance tout ce qui n'est pas rentable et les entreprises font tout ce qui est rentable et s'accaparent les profits. Et surtout, elles ne paient pas d'impôts. Et si je pense au contraire, si je pense au contraire autre chose, je vais dire, bon, dans un modèle où les collectivités ont leur propre pouvoir de décision et font ce qu'elles veulent, on leur laisse prendre leurs décisions. Toutefois, nous, en tant que porteurs d'un schéma politique différent et en tant qu'idéologiquement différent, eh bien, on ne laissera pas l'argent public aller là. Et la question de fond, elle n'a pas été tranchée. La question justement de dire quel modèle économique, quel modèle social et quel modèle on veut faire, elle n'a pas été tranchée parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord dessus. Voilà. À un moment donné, là, on est au moment où il va bien falloir la trancher, cette question, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est les nationalistes qui accèdent aux responsabilités, donc la demande, elle est encore plus forte. Et de dire, mais nous, maintenant, on veut être autonome, comme ça peut se passer ailleurs en Europe, et on a en face le niet catégorique de l'État. Mais en même temps, les autres régions et les autres collectivités et même tous les gens qui réfléchissent un peu sur la question se disent mais le modèle centralisateur français aujourd'hui il n'a pas fait ses preuves et on ne va pas mieux que d'autres pays d'Europe, voire on va plus mal que d'autres pays d'Europe qui eux ont donné depuis longtemps l'autonomie. On voit bien que peut-être en la matière on est précurseur. Aujourd'hui la question de Corse ou de pas Corse, c'est parce que il y a une peur, c'est la peur d'être submergé, c'est la peur de plus exister. Mais je pense que son Corse, bon, d'abord les gens qui vivent ici, les gens qui ont la volonté d'y faire quelque chose, et puis les gens qui sont attrapés par la passion de la Corse. Mais la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut classer les Corses et pas les classer ? Ou plutôt, est-ce qu'il faut essayer de produire une société qui soit forte, qui soit capable de véhiculer ce qu'on a envie de véhiculer, et puis après, peu importe les gens qui arrivent et qui s'en vont. Il y a des gens qui ont 0% de sang corse dans leur veine, ils parlent corse aussi bien que moi. Il y en a qui ont 100% de sang corse dans leur veine. Quand on leur parle de la Corse, ils ont les cheveux qui se dressent droit sur leur tête. Donc c'est vraiment pas comme ça qu'on définit les choses, d'après moi. Je pense qu'il faut se définir par rapport à ce qu'on est nous et dire moi j'en suis à titre personnel, j'en suis tout à fait convaincu. Je suis convaincu que dans mon pays, il y a les solutions, il y a la richesse et que tout est là. Il n'y a plus qu'à faire. Faute de pouvoir bâtir notre modèle, quelque chose de complètement original et d'avoir une stratégie politique et économique qui soit totalement novatrice, je pense qu'à moyen, court-moyen terme, on sera absorbé par la mondialisation. C'est-à-dire que l'espace corse sera consommé en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire un espace magnifique, de grande richesse, pour faire du tourisme et de la spéculation. Donc, on aura un modèle de développement qui concernera le littoral sur une bande de 5 km. Et puis après, le reste, ce sera un monde sauvage, quoi.
C'était un épisode de Paris Strada. un roadcast réalisé par Philippe Pujol et Anne-Sophie Lebon et produit par le label Popcast.
Dans le prochain épisode, c'est en longeant la vallée du Golo que nous filons vers Bastia pour une partie d'échecs.